Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer sur le sang de Jésus. Cette chose est plus importante que nous devons savoir sur le sang de Jésus. J'avais déjà commencé la dernière fois. Et je vous rappelle que lorsque Jean-Baptiste va présenter, introduire Jésus à ses disciples, aux disciples de Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 29, il va faire une déclaration prophétique. Une déclaration qu'il avait reçue par révélation. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et croyez-moi, c'était vraiment une déclaration prophétique qu'il avait reçue par révélation.
Ce
n'était pas quelque chose qu'il pouvait fabriquer. Mais parce que Jean était prophète, il avait reçu des révélations dans les temps où il était dans le désert. Le Père lui avait montré clairement, lui avait donné des visions. Je pourrais vous le montrer dans l'écriture, mais je n'ai pas le temps là. Mais Jean-Baptiste était prophète. Et il avait reçu cette révélation surnaturelle. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et bien sûr, l'agneau, c'était le sacrifice qui allait être fait. Alors, nous avons commencé à voir un certain nombre de choses, 4 points sur les 7 la dernière fois. Et la première chose que vous devez savoir sur le sang de Jésus, je vous l'ai montré, c'est que le sang qui coulait dans les veines de Christ était un sang divin. Je vous ai expliqué que Christ avait un sang comme Adam. Le sang vient du Père, des gènes paternels. Et nous avons remarqué que Dieu a évité la conception du corps de Jésus au travers d'une relation sexuelle entre Marie et Joseph. Et ça, c'était pour éviter la transmission du sang qui était sous la malédiction de la loi avec Adam et Ève. Donc le sang qui coulait dans les veines de Christ était un sang divin. Et nous allons voir qu'est-ce que ce sang va faire et comment il va nous racheter. Dans différents domaines où nous avions besoin de rachat. Rien ne s'est fait par hasard dans le sacrifice de Jésus. Tout était parfaitement planifié et prophétisé. Et il y avait des raisons très précises à cela. De puissantes raisons qui nous permettent aujourd'hui d'être des fils et des filles légitimes de Dieu. D'avoir une victoire sur le diable. De voir des choses que nous n'aurions jamais pu voir si le sang qui a coulé du corps de Jésus n'avait pas été un sang divin. Donc la première chose que nous avons vue, c'est que le sang qui coulait dans les veines de Jésus était un sang divin. C'est ce sang qui va couler pour nous racheter. La deuxième chose que nous avons remarqué, c'est que ce sang est la garantie de notre alliance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que Dieu est le Dieu qui ne ment point. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ça nous permet de générer la foi et de voir le monde surnaturel de Dieu agir en notre faveur. Parce que ça a été scellé par le sang divin. Et partout dans la parole de Dieu, où des alliances ont été faites avec les hommes de la part de Dieu, le sang devait couler parce qu'une vie devait être donnée. C'est une loi spirituelle. À partir du moment où Dieu a fait une alliance, quelle qu'elle soit avec les hommes, obligatoirement, il devait y avoir un sacrifice où le sang devait couler. Si on parcourait toutes les alliances que Dieu a faites avec les hommes dans sa parole, elles étaient toutes scellées avec du sang. Parce que le sang est une garantie. Et une vie doit être donnée pour qu'il y ait une alliance. C'est comme ça que Dieu a toujours prévu les alliances. La troisième chose que nous avons vue, c'est bien sûr que le sang nous accorde le pardon. Mais nous avons fait une remarque très intéressante et très importante. Il y a une différence entre pardon et purification. Et ça, il faut bien comprendre. Être pardonné est une chose. Être purifié en est une autre. Et nous avons fait cette remarque importante. Parce que souvent, il y a une espèce de confusion parmi les chrétiens. Le pardon va impliquer une restauration de la relation pour être sans reproche devant Dieu. Et ça, c'est fondamental. Être pardonné, le pardon réconcilie les gens. Le pardon est un moyen de réconciliation. Mais la purification va aller beaucoup plus loin. Rappelez-vous, lorsque il y avait un paralytique, hein, c'est dans Marc chapitre 2, qui a été amené par quatre amis devant les yeux de Jésus. Ce paralytique, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Jésus ne pouvait pas dire, tes péchés sont purifiés. Non, Jésus ne pouvait pas encore dire tes péchés sont purifiés. Il pouvait lui dire tes péchés sont pardonnés. Mais il ne pouvait pas dire tes péchés sont purifiés. Pourquoi ? Parce que Jésus n'avait pas encore accompli son sacrifice. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, les péchés étaient pardonnés et ils étaient couverts. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Mais ils n'étaient pas purifiés dans l'esprit de la personne. Relisez l'Ancien Testament et lisez l'Épître aux Hébreux si vous n'êtes pas convaincus. C'était la purification extérieure. Mais la purification interne n'était pas possible. Alors, la troisième chose, c'est le pardon. La quatrième chose, c'est la purification. Et nous avons remarqué la dernière fois, c'est dans Colossiens 2,14. On va juste relire ce passage. Colossiens 2,14. Et dans Colossiens 2,14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte 2,14. Et l'acte, nous avons remarqué que littéralement dans le mot grec, c'est un quelque chose d'écrit, c'est un écrit. C'est une reconnaissance de dette. Et je vous ai montré dans l'Apocalypse qu'à la deuxième résurrection, la résurrection des injustes dont nous n'aurons pas part, bien sûr. Merci Seigneur, parce que nous aurons part à la première résurrection. Ah, je peux vous le dire. Parce que ceux qui auront part à la deuxième résurrection,
on
va ressortir l'acte dont les ordonnances les condamnent. Et toutes leurs œuvres vont être lues. Et c'est ça qui prononcera leur condamnation éternelle. C'est ce que la Bible appelle le jugement dernier. Mais nous, nous savons que l'acte dont les ordonnances de condamner a été effacé. La purification implique que nos péchés ont été effacés. Que le dossier qui était retenu contre nous a été pris par Dieu dans le ciel et a été détruit. Vous voyez, dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant, où ça ? À la croix. Et ça fait toute la différence. Être pardonné est une chose, être purifié en est une autre. Et c'est ce qui s'est passé à notre nouvelle naissance. Nous avons vécu le pardon. Ce que les gens de l'Ancien Testament pouvaient vivre, oui.
Mais
la grande différence avec l'Ancien Testament, c'est que nous, nous avons été purifiés. Et ça fait toute la différence. Et c'est très important de comprendre cette différence. Donc c'était les quatre premiers points que nous avons vus qui sont extrêmement fondamentaux sur donc le sang de Jésus. Alors maintenant nous allons voir d'autres points qui sont très importants qu'il faut que vous connaissiez. Alors une chose que vous devez savoir, c'est que le sang vient toujours avant l'onction. C'est une loi spirituelle. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Le sang vient toujours avant l'onction. 12-14. Et je vais vous illustrer ça par un sacrifice de l'Ancien Testament qui était ce qu'on appelle une préfiguration, c'est-à-dire quelque chose qui était fait dans l'Ancien Testament d'une manière naturelle et qui avait en fait, qui était une image de ce que Jésus allait accomplir pour nous. Il est très important que vous compreniez ce principe. Parce que vous savez, parfois, il y a des... comment dire... un évangile qui est de plus en plus qu'on appelle galvaudé, c'est-à-dire on bricole l'évangile de plus en plus. On est en train des fois de prêcher un espèce d'évangile, viens à l'église, tu te sentiras mieux. Et je vous dis, je vous le répète, ce n'est pas de venir à l'église où on se sentira mieux. Viens écouter un concert chrétien, on va danser et on va se réjouir. Et en fait, on est de plus en plus, et il y a vraiment une vague que j'appelle satanique, qui vient de plus en plus dans beaucoup d'églises dans le monde entier, pour enlever de plus en plus ce qui fait la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile est basée sur le sacrifice de Jésus. Et ça, celui qui touche à ça, malheur à lui. Malheur à celui qui commence à toucher à ce genre de choses. Le cœur de l'évangile est basé sur le sacrifice de Christ. Et l'entrée dans le royaume est basée sur une sincère repentance. avec un pardon et une purification des péchés pour éviter l'enfer. Et ce message doit rester tel quel. L'enfer et la condamnation éternelle existent. Et nous n'enlèverons jamais ça dans cette église du message de l'évangile. Parce que celui qui touche à ça, pour faire du recrutement parmi des gens qui se sentiraient bien par au milieu des protestants, qui veut baptiser des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, des gens qui cherchent ni plus ni moins à faire du recrutement et que les gens se sentent bien, c'est compromettre l'évangile de Christ. Quelqu'un dise amen.
Amen.
Je vous garantis, c'est vraiment un esprit qui tourne de plus en plus. En Amérique du Nord, ils ont de sérieux problèmes avec ça. En Europe, n'en parlons pas. Et ça vient ici en Afrique. On commence à faire de notre Jésus quelqu'un de populaire qu'on prend pour les choses dont on a envie. Sans que ce soit basé sur une vraie relation avec une consécration. La relation avec Dieu implique une consécration. Dites après moi, la relation avec Dieu,
la relation avec Dieu
implique ma consécration. C'est très important,
frères et
la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, la sanctification a deux aspects particuliers. La première, c'est la séparation d'avec le péché. Se sanctifier, ça veut dire se séparer, se mettre à part. Et ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins prêché. On veut des jolies phrases sur face de bouc. On veut des prédications où on nous dit qu'on est très bien, qu'on est formidable, qu'on est des champions, qu'on est ceci. Oui, il y a une vérité là-dedans. Pas sans le cœur de l'évangile. Vous savez, des prédications sur la croix, sur le sang, sur le sacrifice de Jésus, nous en avons besoin. Et nous en avons besoin régulièrement. Maintenant, nous ne pouvons pas que prêcher la croix, le sacrifice, etc. Parce que nous devons parler de différents thèmes. Mais ça doit rester le cœur, le fondement de nos messages. Et ne vous laissez pas tromper par des jolies paroles qu'on balance un peu partout et qu'on s'envoie partout sur Internet. Je vous ai dit, je suis quelqu'un qui démarre des médias et qui aime utiliser le média, mais je connais la perversité des médias. Les médias peuvent être un instrument extraordinaire.
Et
peut être aussi le pire des instruments pour mener des gens à faire n'importe quoi et à croire n'importe
quoi.
C'est pour ça qu'un des grands combats que l'Église a aujourd'hui, c'est de se tenir pour la vérité. Les messages qui ne font que caresser les gens pour leur plaisir de ce qu'ils ont envie d'entendre, ce ne sont pas des messages bibliques. Tu veux voir la puissance de Dieu? Voir le Seigneur, c'est quoi? C'est voir l'action divine dans ta vie. C'est voir une personne d'abord qui est sous une conviction de péché avant de lui faire prier 50 fois la prière de repentance parce qu'il n'a pas de conviction de péché.
Voir
le Seigneur quand quelqu'un veut être sauvé. D'abord, il doit être dans une condition où il réalise sa perdition. Sinon, nous faisons des adhérents. Et nous plongeons les gens dans un bain froid. C'est tout quand nous les baptisons. Et ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'utiliser les principes de sa parole. Et de marcher dans sa puissance. Et ceux qui font de l'évangélisation, vous avez plutôt intérêt à vous consacrer dans la prière. Et quand vous parlez aux gens, que la puissance de Dieu puisse leur tomber dessus. Et qu'ils aient cette conviction de perdition, cette conviction de péché. On
ne
peut pas avoir Dieu dans le salut. On
ne
peut pas être sauvé, on ne peut pas avoir Dieu dans le salut. À partir du moment où il ne va pas y avoir une séparation avec le péché, donc une repentance. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si
tu
n'as jamais eu une conviction de péché. Et si tu ne te repens pas de tes péchés. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui fréquentent les églises protestantes pour dire, bon, je vais chez les protestants. Si c'est toi ce matin, fais attention, tu es en train de te tromper, te séduire toi-même. Humilie-toi devant Dieu. Et demande-lui de lui te montrer ton état de perdition. Sans lequel tu ne verras pas Dieu, tu ne pourras pas être sauvé. Tu pourras peut-être adhérer. Tu pourras suivre tous les cours bibliques du coin. Regardez les belles émissions de Joyce Meyer. Mais
ce
n'est pas ça qui fera de toi quelqu'un qui est né de nouveau et transformé par sa puissance. Ne nous trompons pas nous-mêmes, frères et sœurs. Soyons bien clairs, la fondation de l'évangile est là. Et si
tu
es dans ce cas-là ce matin, un espèce d'adhérent, je vais te dire une chose, tu es en danger de mort éternelle. Soyons bien clairs. La nouvelle naissance ne peut pas venir avant une repentance et une prise de conscience du péché. La Bible nous dit clairement que s'il n'y a pas de sanctification, de mise à part, de séparation d'abord du péché. Et la deuxième partie de la sanctification, c'est s'approcher de Dieu. Selon le protocole divin. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On se met dans les conditions divines. Et on s'approche de Dieu. Et là, tu vois la gloire de Dieu. Là, tu verras le Seigneur. Donc la Bible est très claire. La sanctification vient en premier. Et la bénédiction vient en conséquence de cette consécration et de cette séparation. La parole de Dieu va nous donner vraiment un très très bel exemple dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique chapitre
14,
c'est vraiment une très 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 belle image de l'Ancien Testament. Je pense que c'est une des plus belles images que nous avons à propos de ce principe du sang qui vient avant l'onction. La purification vient avant d'être loin et de profiter de la présence de Dieu. Ce n'est pas le contraire. Dans certains cercles, moi j'ai vu des fois des gens où on faisait des sortes de réunions de prière. On voulait que des gens soient remplis du Saint-Esprit alors qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Tu
ne
peux pas amener les gens au baptême du Saint-Esprit s'ils ne sont pas nés de nouveau.
C'est
un non-sens. Et il y a des fois des gens qui veulent. Je me souviens un jour, il y avait, d'ailleurs c'était un de mes voisins il y a bien longtemps. Et ce monsieur, franchement, n'était pas né de nouveau. Je ne sais pas s'il l'est aujourd'hui d'ailleurs. Mais un jour, il était venu dans une des réunions qu'on faisait au Méridien. Et on avait passé un temps d'onction particulier. Et puis quelques semaines plus tard, je l'ai rencontré. Et il m'a dit, oh, je suis venu au Méridien, blablabla. Et je suis sorti, j'étais très très content. Et il avait bénéficié un tout petit peu de ce qu'on était en train de vivre. Le problème, c'est qu'il n'était pas purifié. Et ça n'a rien donné dans sa vie. L'onction ne peut pas venir avant le sang, avant le pardon, avant la purification, avant la consécration. C'est un principe spirituel. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est une loi spirituelle. Tu veux voir plus la présence de Dieu dans ta vie? Nettoie ta vie. Cherche ce qui déplaît au Seigneur. Tu peux connaître beaucoup de choses sur la parole de Dieu, sur les principes de Dieu. S'il y a des choses qui ne sont pas en règle avec le Seigneur dans ta vie, tu ne pourras pas voir l'onction de Dieu, la présence de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie dans les différents domaines. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Tu ne peux pas vouloir bénéficier de choses de la part de Dieu en violant certains principes divins. Dans Lévitique chapitre 14, Dieu nous donne ce que dans l'Ancien Testament il devait faire à propos de la purification des lépreux. Je vais lire en grande partie en français. Il y a quelques versets qu'on lira en kirundi parce que la lecture peut être assez longue. Ça sera jusqu'au verset 18. Et on va voir cette purification du lépreux. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification, et on l'amènera devant le sacrificateur. Alors, le lépreux est une image du pécheur. Le pécheur perdu qui est exclu du peuple de Dieu. C'est exactement ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand Jésus a purifié des lépreux, sachez que personne ne voulait s'approcher de ces gens-là. C'était des exclus de la société. Pourquoi? Parce que ni plus ni moins, la lèpre est contagieuse, nous le savons. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas comment soigner la lèpre. Aujourd'hui, on sait quoi faire avec cette maladie. Si c'est pris assez tôt, on est capable d'arrêter la lèpre. Par contre, ce qu'elle a détruit, on n'est pas capable de le reconstruire. Alors, l'idée ici, c'est le pécheur perdu qui va être pardonné et purifié. Et il y a une illustration très, très, très intéressante sur cette loi spirituelle où le sang vient avant l'onction. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Donc, voici quelle sera la loi du lépreux, image du pécheur, donc pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Alors, quand on parle de purification, c'est purification de la chair ici. On ne parle pas de purification spirituelle, ce n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Le sacrificateur ordonnera qu'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants, purs du bois de cèdre et du cramoisi et de l'hysope. Alors, on va expliquer en quelques minutes ce que c'est que tout ça. Les images de tout cela. Mais sachez que les lépreux étaient, donc on a dit, mis à part, ils vivaient en dehors de la société. C'était des exclus de la société. C'était des gens rejetés. très humiliés aussi parce qu'ils n'avaient pas le droit de vivre parmi leur famille, parmi les autres. On les mettait à l'écart. Et d'ailleurs, quand les lépreux, par exemple, quand vous vous promeniez quelque part en Israël, si jamais vous vous approchez d'un endroit où il y avait un lépreux ou des lépreux, que vous ne le saviez pas, c'était la responsabilité du lépreux de crier très fort, lépreux, 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 sous-entendu, ne vous approchez pas. Vous comprenez à quel point ces gens vivaient une vie horrible. Ils étaient obligés de le faire. Si jamais on s'approchait d'un lépreux et qu'il n'avait pas crié ça, on avait le droit de le lapider. Donc de le tuer avec des pierres. Pourquoi ? Parce que c'était lui qui n'avait pas prévenu du danger. Dites merci Seigneur parce qu'on n'est plus sous la loi de Moïse. Je vous garantis, j'aurais pas aimé vivre sous la loi de Moïse.
Waouh,
c'était pas facile. Et Dieu était obligé de faire ça. Parce qu'il y avait certaines règles. Et vous voyez, il y avait des lépreux qui étaient purifiés par la puissance de Dieu. Et là, c'est ce qu'on appelle la cérémonie de purification. Pour que le lépreux constate sa guérison. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? On pourra le réintégrer dans le peuple. C'est l'image, bien sûr, d'un pêcheur qui est perdu, qui va être purifié par le sang de Jésus, pardonné et purifié, qui va naître de nouveau et qui va pouvoir intégrer le peuple de Dieu. Comprenez l'image ici, bien sûr. D'accord ? Donc tout ça, c'est des images de l'Ancien Testament pour mieux nous faire comprendre les réalités que nous vivons. Et merci Seigneur parce que nous sommes dans les réalités, nous, en
Christ.
C'est pourquoi ce que nous avons vécu est tellement extraordinaire qu'il faut savoir vraiment le découvrir et en profiter et glorifier Dieu. Donc le lépreux, voilà sa cérémonie. On disait, voilà, on ordonnera qu'il prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants, on va voir ça, et purs, parce qu'il y avait des oiseaux qui étaient considérés impurs, parce que Dieu voulait montrer la différence, marquer la différence entre la sainteté et le péché. Quand vous voyez que Dieu avait considéré des oiseaux, des animaux purs et des animaux impurs, c'est pas que Dieu avait créé des animaux purs et impurs. Il disait à son peuple, voyez, tel type d'animaux, je le considère comme pur, ça vous donne une image de la sainteté. C'était pour ça que Dieu avait fait ça. Parce que Dieu ne crée pas des choses pures et impures. Mais c'était pour que les Israélites prennent conscience. Rappelez-vous, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient besoin d'avoir toujours des choses devant leurs yeux qui montrent la différence entre ce qui est divin et approuvé par Dieu et quelque chose qui n'était pas approuvé par Dieu. Nous, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit pour nous dire ça. C'est ce qui fait toute la différence. Et on peut vraiment remercier le Seigneur pour ça. Donc deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Alors le bois de cèdre va être un symbole bien sûr de la croix. On a bien sûr ici un symbole de la croix. Et Dieu va aussi donner d'autres symboles. Le cramoisi, c'était donc un tissu rouge très foncé. Le cramoisi. Et en fait, c'est le symbole de la souffrance de la croix, de Jésus à la croix. Donc là, on a des images fortes. On a ce bois de cèdre qui va être bien sûr l'image de la croix. Le tissu rouge qui va être le symbole de la souffrance que Jésus va avoir à la croix. Et l'hysope qui était une petite branche que l'on prenait, que l'on trempait dans le sang. C'était une petite branche comme cela, une longueur un peu comme ça, avec des petits, comment dire, des feuilles toutes vertes. Et qu'on trempait dans le sang. Et on aspergeait le lépreux, comme on va voir. Et l'hysope, ça va être le symbole de la foi. Au travers de ce sacrifice. Alors, Dieu va ordonner un certain nombre de choses. Donc, à partir du verset 5, il va dire comment faire les choses. Verset 5. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. L'eau vive, c'est de l'eau propre, de l'eau potable, c'est ça que ça veut dire. Tu peux lire le verset 5, s'il te plaît. Alors, il va y avoir deux oiseaux. L'un va être le symbole de Jésus qui va mourir. L'autre sera le symbole de la résurrection de Christ. Comme nous allons le découvrir. C'est vraiment très intéressant dans ce sacrifice. Donc le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Le vase de terre ici va être l'image de l'humanité de Christ. Sur de l'eau vive. Le symbole de la vie de l'esprit. Verset 6. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Alors rappelez-vous, l'oiseau vivant va être le symbole de Christ. Le bois de cèdre, la croix. Le cramoisi, la souffrance. L'hysope, la foi. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé. Je pense que vous auriez aimé être sacrificateur. Vous égorgez l'oiseau, vous versez son sang. Franchement, j'aurais pas aimé être sacrificateur. Sinon, je serais en train de faire ça devant vous. Et on serait en train de pleurer pour le pauvre petit oiseau qu'on a égorgé. Pour ceux qui aiment les oiseaux. Et on verse dans un vase de terre. Et on prend tous ces symboles, le bois de cèdre, symbole de la croix, cramoisi, symbole de la souffrance, l'hysope, symbole de la foi. Et qu'est-ce qu'on le fait? On trempe dans l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé. Le premier oiseau est le symbole de Christ qui va mourir à la croix, qui verse son sang. Le deuxième oiseau est le symbole de la résurrection de Jésus. Verset 7. Il en fera sept fois aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. On verra pourquoi après. Puis il déclarera pur. Il lâchera dans les champs l'oiseau vivant, verset 8. Celui qui se purifiera lavera ses vêtements. On revient au verset 7. Oui, on revient au verset 7, d'accord, ok. Alors, il va lâcher l'oiseau vivant dans les champs. L'oiseau vivant a été couvert du sang. Et l'oiseau va s'élever vers le ciel. L'image de Jésus ressuscité qui prend son sang et qui va l'offrir en témoignage pour sceller notre alliance. Rappelez-vous, l'oiseau vivant avait été trempé dans le sang de l'oiseau mort. Il était couvert du sang de l'oiseau mort. Image de Jésus qui verse son sang pour nous à la croix. Le sacrificateur lâche cet oiseau vivant, le deuxième oiseau, image de la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus va ressusciter, il va monter vers son Père et il va offrir son sang pour sceller notre alliance. Et c'est l'image ici qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Cet oiseau couvert du sang, du sacrifice, qui va s'envoler vers le ciel. Image de Jésus qui prend son sang et qui va sceller notre alliance au troisième ciel. Verset 8. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp et restera 7 jours hors de sa tente. Alors ici, c'est l'image, une fois que le pécheur a été purifié, c'est l'histoire qu'il va nettoyer sa vie. Il se rase entièrement, il se nettoie entièrement. C'est l'image où il va se débarrasser de tout ce qui peut encore déplaire à Dieu dans sa vie. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, lavera ses vêtements, vous voyez cette image encore, baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Le huitième jour, il prendra 2 agneaux sans défaut, une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleur de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Verset 11, le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, donc dans la présence de Dieu. Le sacrificateur prendra, là on arrive à cet aspect de l'huile. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile, c'est-à-dire une mesure d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Verset 13, il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint, car c'est dans le sacrifice de culpabilité comme dans le sacrifice d'expiation. La victime est pour le sacrificateur et c'est une chose très sainte. Verset 14, je ne vais pas faire des commentaires sur tout ça. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est l'aspect du sang et de l'huile. Regardez bien ici, verset 14. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra sur le lobe de l'oreille droite celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit.
Verset 14.
Verset 15, le sacrificateur prendra du log d'huile, donc de l'huile, symbole de l'onction, bien sûr. Il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt, cette fois, aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le pouce de son pied droit, par-dessus, regardez bien ici, verset 17, par-dessus quoi ? Le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. On va lire verset 17 et verset 18, s'il vous plaît.
Murongo wa 17 ngo amavuta asigaye kurushi gwiwe uwo muherezi ayakoze kugutwi kwiburyo kuwo ahumanurwa ahera hejuru no kurukumu gwiwe gwiburyo no kwinogiwe rinini gwiburyo aharoye ya maraso y'ikimazi c'impongano ayandi mavuta ayasigaye mu rushi gwiwe uwo muherezi ayasige mu mutwe w'uwo ariko ahumanurwa.
Donc ici, qu'est-ce qu'on voit?
Allez, tuboneke.
On voit 3 choses qui vont se faire d'une manière très protocolaire selon Dieu. On parle de l'oreille, on parle du pouce de la main, et on parle du gros orteils du pied. Et tout ça, c'est des images qui doivent nous parler à nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Le sacrificateur, d'abord, applique le sang de la victime. Applique le sang du sacrifice qui, bien sûr, est une image de
Christ.
Qui verse son sang pour nous. Et là, on voit que le sang est appliqué en premier. Le sang n'est pas appliqué en deuxième. Et ça, c'est une loi spirituelle. Là où il y a de l'onction, il doit d'abord y avoir de la purification. C'est une loi spirituelle. Là où il y a de l'onction, il doit d'abord y avoir purification. Il doit d'abord y avoir quelque chose qui s'est produit au travers du sang. L'onction ne précède jamais le sang. La présence de Dieu ne peut pas se manifester là où il n'y a pas de purification d'abord. C'est quelque chose que vraiment on doit savoir sur le sang de Jésus. Là, on voit que le sacrificateur a une ordonnance divine sur le lobe de l'oreille droite. Sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit. Qu'est-ce que cela représente? Il y a des choses que cela représente pour nous chrétiens nés de nouveau. L'oreille nous permet de quoi? D'écouter. C'est pas compliqué. Bien sûr, nous parlons de choses spirituelles. Si tu veux écouter et entendre vraiment la voix de Dieu, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas en règle avec Dieu. S'il y a du péché dans nos vies, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Si
tu
as été mentir, si tu as été faire n'importe quoi avant, et tu dis « Seigneur, parle-moi », d'abord, mets-toi en règle avec Dieu. Le sang va te purifier. Et ton oreille spirituelle va devenir pure. Ça a été le cas lorsque tu as reçu Jésus. Depuis que tu as reçu Jésus, tu as la capacité d'écouter la voix de Dieu. Parce que ton esprit est né de nouveau. Le Saint-Esprit habite en toi. Et la Bible nous dit que ce sont les fils de Dieu qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas les inconvertis. L'inconverti ne peut pas entendre la voix de Dieu. Toi, tu as la capacité d'entendre la voix du Seigneur. Mais si tu rétrogrades ou que tu chutes, cette voix d'un seul coup va être voilée. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas eu purification, il ne peut pas y avoir d'écoute de la voix de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre. Vous vous rappelez dans cette histoire où Jésus va laver les pieds de ses disciples? Pierre est fâché. Parce que c'est Jésus qui est supposé être le maître qui lave les pieds de ses serviteurs. Mais pourtant Jésus a dit quelque chose, parce que Pierre est fâché, il dit non, Seigneur, en plus tu me laves le visage. Il dit non, Seigneur, c'est à moi de faire ça. Sauf que Pierre n'avait pas compris l'image.
Et
Jésus a dû lui expliquer. Il a dit, une fois que tout le corps est baigné, on a juste besoin de se nettoyer un peu les pieds pendant notre marche. En fait, c'était l'idée que Dieu nous purifie entièrement, mais dans notre vie chrétienne, il peut nous arriver de chuter dans le péché. Mais quand c'est le cas, on a besoin d'être purifié à nouveau pour être restauré. Là, Dieu nous dit au sacrificateur l'oreille droite, le lobe de l'oreille. Le sang est appliqué. Et après, l'huile, l'onction vient. Donc, la capacité à écouter la voix de Dieu. Et à savoir si c'est Dieu qui parle ou si c'est Dieu qui ne parle pas. Ensuite, bien sûr, il parle du pouce de la main droite. Et là, c'est l'idée, bien sûr, de ce qu'on fait pour le Seigneur. Les œuvres divines que Dieu a préparées d'avance. Tu ne peux pas plaire à Dieu avec tes propres façons de faire. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens, même encore aujourd'hui. Normalement, déjà, si tu es dans le Seigneur, le fait d'appliquer, de pratiquer la parole de Dieu plaît à Dieu quand tu pratiques la parole. Maintenant, il y a des choses que tu dois faire dans ta vie, que Dieu t'appelle à faire, que Dieu ne m'appelle pas à faire, que Dieu appelle, par exemple, Jean-Claude à faire, mais qui ne concerne ni tel frère ou telle sœur ici. Ce sont des choses que le Seigneur nous demande spécifiquement dans notre vie. Et là, ce sont des choses qui plaisent à Dieu quand nous les pratiquons au temps divin. Mais à partir du moment où nous obéissons à Dieu, le fait d'avoir été purifié amène la puissance de Dieu dans ce que nous faisons. Et c'est l'image ici. Là où nous mettons la main par rapport à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Cela plaît à Dieu. La première chose que tu peux faire pour plaire à Dieu, c'est de pratiquer sa parole.
Tu n'as
pas besoin d'avoir une grande vision pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une voix audible qui va te parler.
Tu
as juste besoin de lire la parole, de savoir pratiquer la parole et de la pratiquer. Quand tu fais ça, tu plais à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a purifié. Et il a mis son onction en toi. Il a mis son onction en toi. Et quand tu pratiques la parole de Dieu, tu plais à Dieu. Lorsque Dieu te parle et que tu fais une œuvre divine, que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Pas parce que quelqu'un que tu connais a fait ça, mais que le Seigneur t'a parlé spécifiquement et qui t'a dit je t'appelle à faire ça, ça et ça, et que tu le fais au bon moment, au bon endroit. Obligatoirement, la présence de Dieu vient et appuie ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que nous devons rechercher la volonté de Dieu spécifique dans nos vies. Savoir pourquoi tu es né, qu'est-ce que Dieu a comme destinée pour toi. Vous savez, si chaque chrétien était à sa place dans ce monde, on aurait une influence dans ce monde incroyable. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas à leur place. Et sachez une chose, vous savez, le mot péché dans la Bible, ça veut dire manquer la cible. Ça veut dire manquer la cible. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire et que tu le fais sous le nom de Dieu, tu manques la cible, donc tu pêches. La notion du bien et du mal est beaucoup plus large qu'une liste de péchés de faire et de ne pas faire. La notion du bien pour Dieu, c'est faire ce que le Seigneur te demande au moment où il te le demande et de la façon dont il te demande. Donc ça voudra dire que tu as cherché sa face avant. Le Seigneur t'aura parlé, te dira c'est le moment, c'est le moment. Ensuite, le sacrificateur a ordre de faire quoi? D'appliquer le sang sur l'orteil, le gros orteil, et après de mettre l'huile. Et là, c'est l'image de notre marche avec Dieu. La façon dont nous plaisons à Dieu quand nous marchons avec lui. Marcher avec Dieu, c'est les grandes lignes de notre vie. C'est les grandes orientations de notre vie. C'est ça notre marche avec Dieu. Voyez, les œuvres que nous faisons pour Dieu, ce sont des choses spécifiques que Dieu peut nous demander. Mais ta marche avec le Seigneur, c'est les grandes orientations que tu prends avec lui. Et si tu veux marcher en plaisant à Dieu, eh bien, il va falloir que tu apprennes à le faire selon les critères divins. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu as tout ce qu'il faut. Parce que d'une part, tu as subi cette purification totale de tout ton être. Mais en même temps, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et il a approuvé. L'onction approuve.
L'onction
est une approbation de quelque chose. Quand nous posons un acte, par exemple, quand quelqu'un dit « J'accepte Jésus comme mon sauveur », qu'il se repent sincèrement, ce qui va prouver que sa repentance est sincère, c'est l'approbation divine qui va venir faire naître de nouveau cette personne. C'est pour ça qu'on peut voir si quelqu'un s'est vraiment repenti sincèrement de ses péchés. Quand il va quoi ? Naître de nouveau et témoigner d'une transformation. Dieu approuve par sa présence là où il y a eu sanctification par son sang. Je répète, Dieu approuve par sa présence là où il y a eu sanctification par son sang. Ça peut être purification totale ou mis à part. Par exemple, dans le ministère, c'est ce qui se passe. Quelqu'un qui s'auto-promulgue dans le ministère. Si Dieu ne met pas d'onction sur lui, ça veut dire que Dieu n'a pas approuvé. Le sang vient en premier. Ensuite vient l'onction. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble. Alléluia. Vous savez, les choses que je vous dis sur le sang de Jésus sont des choses fondamentales. Ce sont les fondations du royaume. Mais je vous le dis, le message de l'évangile, de plus en plus, commence à être une adhésion. Et ça, jamais on l'acceptera. Nous devons nous tenir pour la vérité, quoi qu'il nous en coûte. Ce sont des fondations. La fondation du royaume a été faite par son sacrifice. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ça doit passer par le sang qui purifie. Pour être consacré à Dieu, ça passe par le sang. Obligatoirement. Il n'y a pas d'autre alternative. Il
n'y
a pas des bricolages de religion, de baptême, de tout ce que vous voulez, d'adhésion. Mais la vie de Dieu coule là où il y a eu la purification.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.